Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Se baigne dans la piscine et se repose. Sylvie, qui a compris ce que désire Matthew, laisse souvent les deux garçons seuls. Matthew, essaye de séduire Nicolas. Nicolas a compris les sentiments de Matthew pour lui, ou plutôt l'attirance. Il se laisse flirter. Et si la caresse va trop loin, il ne dit pas non. Sylvie, qui voit les deux jeunes gens très occupés entre eux, pour ne pas s'ennuyer, demande à Matthew de lui prêter sa voiture pour faire un tour l'après-midi. Il lui tend les clés. Tiens, tu peux t'en servir quand tu veux. Merci. Et elle va sur les routes, dans la voiture rouge décapotable, cheveux au vent. Prend les routes les longues qui longent la mer et file, file, file. La vitesse la grise. Thank you. Un après-midi que la sœur est partie, les deux jeunes gens sont au salon. Ils ont passé un long moment à se regarder, à se sourire. Une complicité entre eux est née. Nicolas a accepté d'être séduit, a été pris par son propre jeu. Leurs regards se croisent, se fixent, se sourient. Nicolas se lève. Finit son verre. Et se dirige vers la porte qui mène au jardin. Mathieu va vers lui avant qu'il n'ait atteint la porte. Il a mis la main sur son épaule. Nicolas se retourne. Mathieu, d'une main, maintient la tête de Nicolas et l'embrasse sur les lèvres. Puis il lui dit « Viens ». Il prend au cou Nicolas qui le suit. Il monte à l'étage pour aller dans la chambre de Mathieu. Une fois la porte fermée, Mathieu lui défait sa chemise et son pantalon. Nicolas se laisse faire. Mathieu est ébloui par ce beau corps lisse et si doux. Nicolas ne pense à rien. Laisse faire. Peut-être que ce sera le seul instant de plaisir de cette sorte. Pendant ce temps, Sylvie roule sur la route ensoleillée. Elle aussi ne veut pas réfléchir. Sur une route déserte, elle s'arrête à une station d'essence pour prendre de l'essence. Un pompiste approche, c'est un grand jeune homme dans les 23 ans, mince, des cheveux blonds, le visage encore coupon. Il va de soi qu'ils parlent tous les deux américains, mais faisons comme les films doublés. De toute façon, je ne peux pas faire autrement, parce que moi et l'américain, ça fait deux. Vous désirez le plein super, s'il vous plaît. Et vous me regarderez les pneus. Elle est sortie de voiture, il la serre. Elle voit que la lumière du soleil, un peu jaune, or, rend ses cheveux et son visage d'une beauté merveilleuse, irréelle. Lui aussi la regarde et lui sourit légèrement. Elle se dit, je dois faire le même effet pour lui. Et lui demande, tout près d'elle, « Vous êtes de quel pays ? France ? Ah, la France, quel beau pays ! L'Amérique aussi, c'est pas la même chose. La France, c'est la femme. » Elle sourit, lui dit, « Vous avez raison, L'Amérique, c'est les hommes, les cow-boys. Il lui dit, l'Amérique et la France sont faits alors pour s'entendre. Le souris lui dit, oui, pourquoi pas. Une poussière entre dans l'œil droit de Sylvie. Faites voir, il la prend au menton pour la forcer à lever la tête. Prends un mouchoir, ouvrez les yeux. En faisant la grimace, elle les ouvre. Tournez les yeux. Non, ça me fait mal. Ça vous fera pas mal. Il voit la saleté. Avec le bout de son mouchoir, elle la lui enlève. Ah ! Vous avez mal ? Non, c'est fini, merci. Il reste que quelques secondes, l'un contre l'autre. Puis, l'embrasse sur les lèvres. Elle se laisse faire. Elle sent son corps musclé, l'odeur de sa peau, ses lèvres légèrement salées. Après le baiser, elle baisse les yeux et lui donne une gifle, puis baisse les yeux. Lui la prend fortement contre lui, la force à lever la tête en lui tirant les cheveux et l'embrasse sur les lèvres. Elle s'abandonne, puis il la prend par les bras et l'amène chez lui, une maison attenante au garage à un étage. Une heure plus tard, elle est assise sur le lit en combinaison, lui en pantalon, il fume une cigarette. Il lui demande « Nous nous reverrons ?» Elle regarde la pièce, lit de fer à une place, table de nuit et armoire en acajou. Cela fait pauvre, années 50. Se tourne vers lui, lui caresse ses cheveux. « Oui, je crois. » Elle retourne le voir presque tous les jours, ce qui arrange les deux garçons. Un après-midi que Sylvie est dans la chambre du garagiste à finir de s'habiller. Le garagiste est en bas à servir un client. Tout à coup, elle a entendu deux coups, que semblaient être deux coups de feu. Elle court à la fenêtre, voit le garagiste à terre, pousse un cri. Oh ! Sylvie voit une voiture démarrer en trompe. Et en passant devant la fenêtre, elle ralentit, sort un revolver de la voiture et vise Sylvie, qui s'évanouit. Trou noir. Petit à petit, elle se réveille, voit du noir, du blanc, flou, puis du blanc, du blanc, du blanc. Puis, petit à petit, ça devient net. Elle voit du vert, pâle. Sont les murs peints, blanc des draps. Elle ne peut pas bouger. Elle semble plaquée au lit. Petit à petit, douleur au bras. la bouche pâteuse et amère. Elle voit apparaître un visage devant elle, presque contre elle. C'est un homme presque chauve sur le devant, cheveux châtains, pas très beau, maigre. Mademoiselle, mademoiselle. Il lui parle. Elle n'a pas envie de lui répondre. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me parler? Appelez le médecin. Le médecin, non, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Avec difficulté, elle dit. Non. Je suis l'inspecteur Harris. Je m'occupe de votre affaire. Vous a tiré dessus et le garagiste est mort. C'est cela?
Oui.
Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé?
J'étais dans la chambre. J'ai entendu des coups de feu et j'ai regardé à la fenêtre. Il était mort. Une voiture noire a démarré, là où les personnes qui étaient dans la voiture m'ont vu à la fenêtre, alors ils ont tiré.
Que faisiez-vous dans la chambre de cet homme?
Elle ne répond pas.
Il était votre amant? Ceci n'a aucune importance.
Elle lui demande. Il est mort?
Oui, on a vidé la caisse. Vous êtes bien Sylvie Scraff?
Oui.
Quelqu'un à prévenir?
Oui, mon frère.
Une heure plus tard, Nicolas et Matthew sont près d'elle.
Il l'embrasse. Matthew lui demande « Comment vas-tu ? » « C'est pas grave, j'ai reçu la balle au bras. Je peux quitter l'hôpital demain. »
Nicolas, l'air furieux, lui demande « On vient te chercher quand ? »
À 11h.
Et le lendemain, à 11h, ils sont venus la prendre. Elle a le bras en écharpe. Fois chez Matthew, elle est allée à sa chambre s'allonger. Le calmant lui fait encore effet.
Nicolas va la voir à sa chambre.
Entrez. Elle est habillée tout allongée. Il s'approche du lit.
Et la giflée. Garce, couchez avec le premier venu.
Elle se soulève et lui dit
« Ça ne te regarde pas. Tu es ma sœur.
Est-ce que je m'occupe de ce que tu fais, toi ?»
Fait le geste de la gifler encore une fois. Elle lui dit
« Je sais. Mathieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas comme l'autre. »
Mais l'autre non plus n'était pas n'importe qui.
Nicolas lui crie
« Un garagiste ?»
Elle lui crie « Et alors ?»
Il lui dit « Tu te rends compte de la réputation que tu nous fais ?»
Et de l'embarras que tu mets, Matthew ?
Elle hausse les épaules et lui dit « Si tu crois que lui s'occupe des ragots, la preuve avec toi, il ne se gêne pas. »
Il lui dit « C'est pas gentil ce que tu dis. Il nous a invités chez lui et il fait tout pour nous faire plaisir. » D'ailleurs, je me demande s'il n'aurait pas plus correct de partir.
Elle lui dit « Il n'y a pas beaucoup de sentiments pour lui. »
Il lui dit « Je l'aime bien, mais si nous restons, les journalistes risquent de rapiquer et la vie sera intenable. Bon, il faut que je te quitte. J'ai parlé de notre départ à Matthew. »
Elle lui demande « Et où allons-nous ? » ?»«
Nous rentrons à Lyon. »
Et il la quitte. Il veut aller dans sa chambre. Avant d'aller chez Matthew, pour se changer, il entre dans sa chambre.
peine est-il dans sa chambre que l'on frappe. Entrez. C'est Mathieu. Je ne te dérange pas?
Non, j'allais justement te dire quelque chose. Mathieu demande. Comment va-t-elle? Bien. J'ai pas voulu la voir pour pas la gêner. Nicolas lui dit. Tu es gentil.
Il enlève sa veste et son pantalon.
Il est en slip. Slip blanc. Mathieu lui demande. Tu avais quelque chose à me dire?
Oui. Nous allons te laisser. Tu as suffisamment fait pour nous.
Mathieu lui dit. Non, c'est ridicule. Vous pouvez rester.
Non. Il faut que nous partions. Si nous ne le faisons pas, il y aura tous les journalistes qui vont rappliquer.
Je m'en moque. Restez.
Non, et puis il faut que nous rentions. Mathieu a les larmes aux yeux et lui dit
« Et moi? Et nous ?»
Nicolas hausse ses épaules.
Mathieu lui dit « Ah, je vois, ça ne te contrarie pas pour nous, mais
moi si. » Et d'un geste brusque, il essaye de prendre dans ses bras Nicolas, qui se débat. Et lui crie « Je suis pas une tapette !»
Mathieu le lâche d'un coup.
Il sort de la chambre en courant.
Nicolas s'habille avec une chemise et un costume propre blanc.
Tout à coup, il a entendu une portière d'une voiture qui s'est ouverte. En quelques secondes, il a une appréhension. Il court à la fenêtre.
Et il a vu la voiture de Mathieu partir en trompe.
Quelque chose lui dit qu'un malheur se prépare.
Vite, il sort de la chambre.
Or, il court au garage, prendre la deuxième voiture.
Il a sorti la voiture du garage. Et part en direction où Mathieu est parti. Il file, longe la route qui longe la mer. Il file. Lorsque la route descend, plus bas, il voit enfin la voiture de sport rouge de Mathieu, qui file à vive allure. Il accélère pour essayer de le rattraper. Mathieu file plus vite.
Mathieu file de plus en plus vite.
Nicolas essaye de le rattraper. Mathieu file.
Nicolas a vu la voiture de Mathieu sortir de virage et dégringoler dans le fossé.
Il va vers lui. Arrête la voiture.
Il est sorti de voiture.
Et court en bas du fossé où se trouve la voiture qui ne brûle pas grâce à Dieu. Et ce n'est pas renversé, mais complètement cabossé sur le devant contre un gros rocher. Arrivé vers la voiture, Nicolas crie « Mathieu ! Mathieu ! Mathieu !» Il n'entend rien. Il est essoufflé, a envie de pleurer, en sueur. La poussière sur lui se sent coupable. Enfin, il voit par la vitre de la portière Nicolas, allongé sur le devant de la voiture, la tête en bas, sur le volant. « Mathieu ! Mathieu !» Il essaie d'ouvrir la portière. Elle est enfoncée, n'y arrive pas. Prend une pierre et tape, tape sur la vitre, tape, tape. La vitre se brise. Il passe la main et ouvre la portière. Mathieu, il se penche, voit le visage de Mathieu en sang. Mathieu, mais il voit qu'il est en vie parce que ses yeux remuent. Tu peux parler, Mathieu ? Nicolas s'assoit sur le siège et délicatement, il prend le visage de son ami, défiguré, plein de sang. Une dent pince à lèvres, plaie, béate, en bas de la lèvre. Nicolas voit aussi qu'il a les mains en sang. Mathieu, la tête sur les genoux de Nicolas, reprend connaissance. J'ai mal. Ne te fais pas. Ne te fais pas ici. On a dû voir l'accident. Le coin n'est pas désert. Ils vont y courir. Mathieu lui demande. Et mon visage ? Nicolas lui répond. Ce n'est rien. Il se met à lui caresser les cheveux. Cinq minutes plus tard, ils entendent les sirènes de la police. Police, pompiers. Des pas. On les dégage. Nicolas a son costume plein de sang. Mathieu est mis sur un brancard pour le mener à l'hôpital. Nicolas fait une disposition à la police, puis il est allé voir à l'hôpital Mathieu. On lui a dit qu'il fallait l'opérer et après l'opération, lui faire de la chirurgie esthétique. sœur a été prévenue. Nicolas lui a dit « C'est ta faute si nous sommes disputés et qu'il a eu cet accident. » Le frère et la sœur vont le voir tous les jours. Après l'opération, Mathieu ne peut parler. Les jours passent. On lui fait plusieurs opérations esthétiques qui n'arrivent pas à lui rendre le visage pur qu'il avait. Mathieu est démoralisé, ne veut voir personne. Il souffre énormément de ses blessures et opérations. Il se drogue beaucoup. Lorsqu'il voit Nicolas, il lui dit « Je suis foutu. Je ne serai jamais comme avant. » Nicolas se sent coupable. Il presse très fortement la main. Très fortement la main de son ami et lui dit « Mais non. Tu redeviendras comme avant. » Le frère et la sœur restent dans la maison de Mathieu jusqu'à ce qu'ils reviennent. Un matin, Nicolas reçoit une lettre. C'est une lettre de la MGM qui lui demande d'écrire un scénario de film. Ils ont lu le roman qui leur a plu. Bien entendu, il est trop scandaleux pour eux, mais ils aimeraient tout de même quelque chose de lui. Il lui laisse carte blanche. Après, l'on verra. C'est le scénario. Après, venir le présenter et si tout va bien, payer. Nicolas n'a pas envie de le faire. Sa sœur lui demande ce qu'il a reçu comme courrier. La MGM me demande de faire un scénario. J'ai pas du tout envie de travailler pour eux. Elle lui répond. Bien au contraire, ça te permettra d'avoir un peu d'argent et de te faire connaître. Nicolas décide d'écrire quelque chose pour le cinéma. Tous les matins, il reste enfermé dans sa chambre et cherche à écrire. Il veut une histoire qui pourrait convenir aux Américains. D'abord, il faut qu'elle se passe chez eux. Ensuite, qu'elle semble scabreuse sans vraiment l'être. L'Amérique aime le sang, mais n'aime pas les sentiments troubles. Il faut tuer politiquement correct. Mais il se dit qu'ils aiment sûrement des choses scabreuses, surtout si c'est français. Mais ne pas toucher aux institutions. Donc, une histoire privée avec un peu de poivre. Il écrit l'histoire d'un jeune homme. Qui va passer ses vacances en Floride avec son cousin dans sa villa. Le jeune homme est démoralisé, car il a raté ses examens. Il est triste de ne pouvoir passer ses vacances avec son ami. Les deux cousins s'entendent bien et passent leur journée à lire devant la piscine ou sur la plage. John a un faible pour David et passe son temps à l'admirer. David se rend compte de rien et trouve naturel de se montrer à son ami prendre sa douche. Il passe sa soirée à lire des BD et à écouter de la musique. Donc, sur le lit, sur le dos, en maillot de bain, se lève tard. Grignote n'importe quoi. Un jour, David reçoit une lettre de sa copine qui lui dit que c'est fini tous les deux. Il se met à hurler, à pleurer. Je n'arrive pas à le calmer. Même il devient violent. Les jours passent. Il ne parle pas. Il se met à boire de plus en plus. Il est irritable. John est triste et ne sait que faire. David l'envoie promener. Un soir, dans une violence terrible, alors que John essayait de le remonter le moral, il lui crie méchamment. « Toi, qu'est-ce que tu connais de l'amour? Pauvre cloche! Personne ne peut t'aimer. Fous-moi le camp !» Il le pousse dehors. John prend la voiture et fonce à vive allure. Puis s'arrête et pleure. Il revient. Il retrouve David qui lui demande pardon et il lui pardonne. Pour se faire pardonner, il lui donne un cadeau. La permission de passer la nuit avec lui. Ils passent la nuit ensemble. Un enchantement. Le lendemain, David lui dit que c'est la première et la dernière fois que ce doit être quelque chose que l'on doit garder dans son corps pour toujours. N'en parler à personne. C'est un secret, tu comprends. Il lui dit qu'il le quitte pour aller retrouver ses parents. Et les deux cousins se séparent. Voilà l'histoire, ou plutôt le scénario qu'il a écrit. Le sentiment homosexuel doit être envolé, caché par une amitié. Et l'ennui d'amour doit être montré d'une façon symbolique. Regarder les étoiles ensemble, se montrer bien, se sentir bien, etc. Juste les yeux, pas de gestes. Il envoie le scénario et ne reçoit pas de nouvelles. Mathieu revient de l'hôpital, le visage bouffi, défiguré, des douleurs de partout. Il passe son temps allongé dans sa chambre ou au jardin avec près de lui des calmants et de l'alcool. Ne parle pas, a envie de voir personne. Un jour, Nicolas voit Mathieu pleurer en disant « Je ne ferai plus jamais de film, c'est fini. Plus jamais, je ne serai comme avant. Plus jamais. » Les producteurs écrivent à Nicolas pour lui dire que son scénario leur intéresse. Ils donnent rendez-vous. Nicolas va au rendez-vous et est reçu par un producteur de la MGM dans son bureau. Une très grande pièce avec baies vitrées. La table du bureau est immense. Il y a un bar, une bibliothèque et deux grands fauteuils en cuir noir pour les invités. L'homme qui est assis à son bureau est mince, cheveux châtains, visage sympathique dans les 35 ans, habillé en costume gris. Il dit à Nicolas, « Nous avons lu votre scénario. Il nous a plu, mais il faudrait plus l'étoffer et mettre en plus des deux amis une jolie fille qui serait l'amie des deux. Et puis, rajouter des scènes de plage, de soirée, que ce soit plus vivant. Des films intimes en Amérique, ça ne marche pas. Ce qui serait bien, c'est qu'il y aurait aussi une histoire policière qui pourrait être impliqué à un braquage de banque. Qu'en pensez-vous ? » Nicolas est affairé, mais ne le montre pas. Il lui dit, « Vous avez raison, je veux bien rajouter un personnage d'une jeune fille, amie des deux garçons, et des scènes extérieures. Mais pour ce qui est de l'histoire d'un braquage, là non. » Il vaut mieux pas. Il vaut mieux que ce reste une histoire sentimentale. Le producteur soupira et lui dit « Bien, mais étoffez l'histoire. Maintenant, nous allons parler des acteurs. Pour l'ami des garçons, il serait bien Elizabeth Taylor. Et pour les garçons, vous avez une idée ?» Que là lui dit « Matthew. » « Non, c'est impossible. Il ne peut plus tourner. Vous voyez bien dans quel état il est. Et puis aucune assurance ne voudra de lui. » Nicolas lui dit « Je vous en prie, monsieur, c'est vital pour lui. S'il dépérit, c'est parce qu'il ne tourne plus. » « Mais il ne peut pas tourner. Il est drogué, alcoolique, squelettique, défiguré. Non, il est fini. » « Écoutez, je vous promets que physiquement, il pourra faire le film si vous le retardez d'un an. »
« Mais les assurances vont refuser. »
« Vous allez me payer pour ce scénario. Eh bien, vous direz à vos assurances que je mets tout mon salaire pour assurer Matthew. »
Le producteur soupire.
« Bien, comme vous voudrez. Mais je doute que vous arriviez à mettre d'aplomb Matthew. Un médecin des studios viendra le voir avant la signature de contrat. »
« Et il jouera quel rôle ?»«
John. »
« Et qui jouera David ?»
Prenez un inconnu.
Arrivé chez Matthew, Nicolas va le voir dans sa chambre.
Entrez. Matthew est avachi dans un fauteuil. Regard lumineux, visage bouffi. Nicolas s'assoit à côté de lui.
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça m'étonne. Tu veux boire un verre? Non. Tu vas bientôt tourner un film. Tu rigoles ou quoi?
Nicolas lui dit
non. La MGM m'a demandé un scénario, l'a accepté et tu vas jouer le personnage principal.
Matthew lui dit,
c'est impossible, tu vois dans l'état où je suis.
Nicolas lui dit,
tu as un an pour te mettre d'aplomb. Es-tu d'accord de relever le défi et de refaire du cinéma?
Matthew réfléchit.
Je me sens tellement là, j'y arriverai pas.
Nicolas lui dit, essayons. Tu veux bien?
Matthew soupire et dit oui.
Nicolas l'embrasse.
Matthew lui dit j'ai soif.
Nicolas lui dit pas d'alcool, du jus de fruits.
Le frère et la sœur se coupent de Matthew. Levé à 8h, douche, petit déjeuner, massage, marche, manger, repas l'après-midi, il renage, se massage et couche tôt. Ils lui font lire des tests à haute voix, le font marcher. Malheureusement, ce n'est pas facile. Matthew se décourage vite. Le matin, il faut le secouer pour qu'il se lève. Il grogne, ne veut rien faire. Dans la journée, il se plaint de douleurs au visage et au ventre. Il prend souvent des calmants qui l'abrutissent et en cachette de l'alcool. Nicolas a beau lui dire qu'il ne faut pas boire, il ne peut s'en passer. Malgré qu'on le force à manger et de la bonne nourriture saine, il ne prend pas de poids, il maigrit même. Il y a des moments difficiles à cause des drogues et de l'alcool. Les médecins ont beau lui dire de ne pas boire, que c'est dangereux avec les médicaments, il dit que ça le calme. Les mois passent. Il n'y a pas de progrès dans son physique. Nicolas a fini le scénario qui a été accepté. Il a ajouté des scènes fortes pour l'actrice principale. Matthew est de plus en plus essoufflé, marche difficilement, souffre de plus en plus du visage et au ventre. D'après les médecins, c'est à cause de la chirurgie esthétique. Le travail a été mal fait. Nicolas s'obstine à lui faire faire quelques mouvements. Sa sœur, un soir, alors qu'ils sont seuls au salon, lui dit « Ça ne sert à rien, ce que tu fais. Il ne pourra plus jamais faire de film. Il est fini. » Nicolas soupire et lui dit « S'il ne pouvait plus boire. Mais je sais que pour le film, je le fais, c'est pour lui. » Pour le maintenir, pour éviter qu'il coule, tu comprends? Je sais que pour le film, c'est fini. Je le sais. Fini. Fini. Matthew est de plus en plus hébété par l'alcool et tranquillisant. Nicolas est obligé de le sortir du lit et de le mettre sous la douche. Là, il le frotte pour lui donner de la force. Puis, il lui donne un café bien noir. Nicolas lui dit « J'en ai assez. Il faut que tu arrêtes de boire. » Mathieu lui dit « Je ne peux pas. J'ai tellement mal si tu savais. Oui, je sais. Mais il le faut. Il faut que tu t'en sortes. Tu dois y arriver. Il ne faut plus boire. Je suis si fatigué. » Un matin, comme tous les matins à 8 heures, Nicolas va frapper à la porte de la chambre de Matthew.
pièce est presque dans la pénombre. Seules les fenêtres, seules les fentes des persiennes font entrer le jour. Il voit que Mathieu est allongé de travers sur le lit, les draps défaits, à demi nu. Il est encore ivre mort. Il s'approche de lui. Allongé sur le dos,
les bras en croix, la bouche légèrement ouverte, les yeux fixes, un rayon de lumière illumine son visage, il est presque beau. En le voyant, Nicolas a la gorge serrée, il sait qu'il est mort. Le docteur est venu, arrêt du corps, trop faible, alcool, médicaments. La mère est venue. Il a été enterré dans l'intimité. Le frère et la soeur sont effondrés. Ils décident de quitter l'Amérique pour aller en France, pour retourner en France. Radio Cani vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 5e partie, production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Voilà, merci. Ma vidéo radio production vous a présenté une cassette au